La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, aujourd'hui deuxième épisode de notre semaine Jack London, l'écrivain à la vie météorique, mort à 40 ans seulement en novembre 1916. Son nom est devenu synonyme d'aventure, il a fait tous les métiers, ou plutôt faudrait-il dire tous les jobs. Ouvrier dans une blanchisserie, pêcheur au large du Japon, journaliste, reporter, chercheur d'or en Alaska, il a vécu toutes les vies, de la grande pauvreté à la grande richesse, et a brûlé sa vie dans l'alcool, nous en parlions hier avec Bernard Fauconnier, lors du panorama biographique. Jeudi, nous serons sur le thème de la fuite qui se confond avec celui du voyage. Ce sera en compagnie de Michel Lebris, rejoint en seconde partie par Jennifer Le Sieur pour un dernier moment en forme de bilan sur le regard que London portait sur son métier d'écrivain. Demain, c'est Philippe Jaworski qui sera autour de cette table. Il a édité et préfacé la Pléiade, Jack London en deux volumes qui vient de paraître chez Gallimard. Avec lui, nous parlerons notamment de ce qu'écrire signifiait pour lui. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, deux textes, l'un célèbre, l'autre moins. En seconde partie, je recevrai Thierry Beauchamp. Il vient de traduire une nouvelle de science-fiction de Jack London intitulée « L'invasion sans pareil » et qui n'est pas politiquement correcte, vous l'entendrez. Mais tout de suite, c'est le romancier, dramaturge et aussi auteur de fiction radiophonique Bertrand Leclerc que je reçois pour parler du livre « Martin Eden », un livre qui en a ébouriffé plus d'un.
Il y avait le Jack London qui arrivait, bon, avec les livres enfantins, c'était Cro-Blanc et toutes ces choses. Et ça a été surtout la première fois où, pour moi, un écrivain devenait un personnage. Et ça, souvent, maintenant, quand on demande aux enfants, un écrivain, pour eux, est une personne morte. Oui. Et là, moi, ça a été vraiment l'image de quelqu'un qui n'était pas mort, Jack London. C'est-à-dire cette image du chercheur d'or, oui, de l'enfant de la baie de San Francisco. Il y a déjà eu ça qui est venu dès le départ. On m'a parlé de ça.
Quand vous dites un écrivain qui n'est pas mort, c'est-à-dire un écrivain, finalement, qui parle à la première personne et qui parle de lui. Donc, voilà. On a l'impression qu'il y a un effet de réel tel qu'il n'est pas mort.
Voilà. Et ça m'a marqué durablement. C'est-à-dire le fait que l'écriture de l'écrivain se confonde avec sa vie et qui est pas de tricherie, c'est-à-dire qu'en même temps on est transporté par le livre, oui, mais en même temps il raconte la vie. Et oui. C'est-à-dire cette manière qu'a le livre d'être un roman d'apprentissage en même
temps.
C'est
ça.
Et bonjour Bertrand Leclerc.
Bonjour.
Cette description que vient de faire Didier Deninck à Paula Jacques de sa découverte des livres de Jack London, c'est-à-dire de la découverte d'un écrivain qui est aussi un personnage, vous pourriez sans doute la reprendre à votre compte, on va le voir. Mais peut-être avant de parler du double de London qui était Eden, j'aimerais qu'on s'arrête sur votre découverte de ce livre Martin Eden que vous racontez dans un livre, Dans les rouleaux du temps, un livre que vous avez fait paraître en 2011 chez Flammarion. Comment avez-vous pris contact pour la première fois? C'est une histoire qui se raconte quand même avec ce livre.
Alors c'est un livre d'adolescence, c'est un livre que j'ai découvert et qui a été un coup de poing formidable quand j'avais une petite quinzaine d'années. Et il se trouve que ce que je raconte dans les rouleaux du temps, où il y a une quinzaine de livres dont je fais le récit de ma lecture à l'époque, que je contextualise à l'époque à laquelle je l'ai lu. C'est un des trois livres que j'avais à emporter dans mon sac à dos, partant, fuguant.
Trois livres très différents les uns des autres.
Trois livres très différents les uns des autres, puisqu'il y avait une biographie de Che Guevara. Et puis, il y avait le Carlos Castaneda, l'herbe du diable de Carlos Castaneda, et le Martin Eden de Jack London, dont je ne savais plus, en fait, assez rapidement, tellement la lecture m'ébouriffait, m'enlevait, si c'était vraiment le Martin Eden de Jack London, ou si c'était pas par hasard le Jack London de Martin Eden, tant la couverture de 10-18, qui à l'époque respectait un protocole où le titre et le nom de l'auteur était imprimé de manière similaire.
Je pense que on va revenir justement sur cette confusion entre le personnage et l'auteur. Donc, trois livres, vous le disiez. Ces trois livres d'idéalistes, au fond. Et vous, je ne sais pas si on l'a bien entendu, quand vous découvrez Martin Eden, c'est parce que vous fuguez de votre pensionnat à Lille, c'est ça ?
C'est ça.
Parce que, précisément, on imagine que vous êtes un idéaliste et que la société bourgeoise qui vous entoure, comme encore une fois on l'imagine, vous révolte.
Oui, après, je ne sais pas si c'est aussi, aussi tranché que ce que vous venez de dire.
Non, c'est jamais
après, c'est
tranché.
Une fugue à 15 ans. Voilà, mais c'est effectivement ce que je réalisais en écrivant Dans les rouleaux du temps, en reprenant ces livres, en les relisant. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'effectivement, c'était d'abord des livres qui donnaient du courage. Il y avait quelque chose qui était, d'une certaine manière... Alors, bon, évidemment, Martin Eden est peut-être un tout petit peu à part dans cette catégorisation, mais d'une certaine manière, c'était trois livres édifiants.
Pourquoi c'est devenu courage, Martin Eden, selon vous ?
Parce que c'est le récit d'un combat, une lutte acharnée qui mobilise une volonté de faire, comme peu de romans ont pu décrire. Une volonté qui à quoi rien ne résiste, enfin qui est capable de pulvériser les rochers.
Et puis j'y reviens tout de même, cette aspiration d'absolu que on ressent peut-être davantage à cet âge-là. Est-ce que le fait que Martin Eden soit un livre qu'on considère souvent comme étant un livre pour la jeunesse pourrait venir de l'absolu que porte ce personnage et qui peut correspondre à cet état d'esprit qu'on a quand on a 15 ans et qu'on fugue de son pensionnat?
En tout cas, c'est parce que c'est d'abord et avant tout une dénonciation de la culture, c'est d'abord et avant tout une dénonciation du monde bourgeois, prétendument civilisé et en réalité particulièrement violent, sinon bestial. C'est d'abord cette dénonciation-là, Martin Eden. La question de l'absolu, je suis peut-être un petit peu plus perplexe, parce que il y a aussi une caractéristique a posteriori tout à fait frappante dans Martin Eden, c'est que c'est un roman on ne peut plus matérialiste. Le matérialisme s'y donne à lire à toutes les pages, à tous les niveaux. Alors évidemment, il y a de l'idéal, il y a de l'utopie, mais la notion d'absolu devient un peu problématique quand on est dans un tel degré matérialiste, y compris dans la chute célèbre du livre, où la mort est décrite de façon totalement inoubliable
et
asphyxiante, le suicide de Martin Eden. Et en restant dans une approche absolument matérialiste du rapport à la vie et à la mort. Il n'y a aucune autre dimension que matérialiste.
Alors on peut peut-être raconter un petit peu pour les auditeurs qui ne l'auraient pas lu ou qui l'auraient lu quand ils avaient 15 ans, eux aussi, ce parcours, cette traversée d'une vie qu'est le personnage de Martin Eden.
Alors, il y a. Moi, je voudrais quand même dire d'abord que, parce que justement, c'est un livre d'adolescence. En tout cas, c'est comme ça que je m'en souvenais. Quand j'ai le principe des rouleaux du temps, c'était de relire les livres qui m'avaient le plus marqué depuis l'adolescence. Ça va depuis Aurélien de Aragon jusqu'à des découvertes plus récentes et Hélène Cixous, par exemple, etc. Et quand j'ai repris Martin Eden, j'étais vraiment persuadé de reprendre un livre d'adolescence, que j'allais y retrouver ce que j'avais pu y laisser adolescent, justement de l'ordre de l'utopie, du combat, etc. Et à la vérité, j'ai été tout à fait scotché par ma relecture de Martin Eden, et je l'ai relu là pour préparer votre émission ces derniers jours. Je confirme mon impression, c'est vraiment un immense roman qui est très très loin d'être limité à cette caractéristique de roman d'apprentissage pour adolescents, lutte pour la vie. C'est donc l'histoire d'un homme issu des milieux les plus pauvres et qui, par hasard, se trouve précipité dans le monde de la bourgeoisie à San Francisco, découvre ce monde, tombe amoureux de la jeune fille de la maison, qui est une jeune fille totalement éthérée, comme on pouvait l'être à la fin du 19e siècle, et entreprend, pour la conquérir, de conquérir tout ce qui est nécessaire à cette conquête, c'est-à-dire la culture, la capacité de parler correctement, de se tenir bien, d'être à sa place dans cet univers où le marin qu'il est au début tangue considérablement au point de craindre de renverser les objets, les tables, etc. Et donc il va conquérir en quelques très courtes années, une culture qui, en fait, va être largement supérieure à celle de ces bourgeois californiens de la fin du 19e siècle assez rapidement. Il s'obstine à écrire, malgré la jeune fille qui, à son tour, a cédé à la passion pour cet homme si vigoureux et si volontariste. Et il s'obstine à écrire et il a beaucoup, beaucoup de mal à publier. C'est le plus gros du roman, en fait, cette espèce de lutte à mort pour parvenir à ses fins, c'est-à-dire être reconnu comme écrivain. une fois qu'il sera reconnu comme écrivain, au bout de cet itinéraire, cet apprentissage qui est porté par une conviction très nietzschéenne de l'existence, c'est aussi les années où le monde découvre Nietzsche, hein, fin du 19e siècle, la dépression va l'emporter, et en fait le succès attendu, contrairement à ce qu'il espérait, va l'empêcher de vivre.
On écoute un premier extrait de Martin Eden, lu par Guillaume Gallienne.
Ils avaient mangé des cerises, de grosses cerises noires et luisantes au jus couleur de vin sombre. Et plus tard, tandis qu'elle lui faisait la lecture, il remarqua que les cerises avaient taché ses lèvres. À l'instant même, son essence divine disparut. Elle était faite d'argile, après tout, comme lui, comme tout le monde. Ses lèvres étaient d'une chair pareille à la sienne, puisque le jus de cerise les tachait aussi. Elle était femme, femme tout entière, comme toutes les femmes. Cette révélation l'abasourdit. Il lui sembla que le soleil mourait au ciel. Ensuite, il comprit ce que cela signifiait, et son cœur se mit à danser, et il pensa à faire la cour à cette femme, puisqu'elle était non pas pur esprit, mais une simple femme, dont les lèvres pouvaient être tachées par des cerises. L'audace de cette pensée le fit trembler, mais son âme chantait joyeusement. Ruth dut sentir un peu de ce changement qui s'opérait en lui, car elle interrompit sa lecture, le regarda et sourit. Les yeux de Martin glissèrent de ses yeux bleus à ses lèvres et la vue de cette tache l'affola. Il faillit ouvrir les bras et les refermer sur elle comme il le faisait autrefois du temps de sa vie insouciante. Elle se penchait vers lui et semblait attendre. Il se contint de toute sa volonté. « Vous n'avez pas écouté un mot, » dit-elle d'un ton boudeur. Puis elle éclata de rire, ravie de sa confusion, et lorsqu'il la regarda dans les yeux, il vit qu'elle n'avait rien deviné de ce qui s'était passé en lui. Alors il eut honte. Vraiment, sa pensée avait été trop loin. Toutes les femmes qu'il avait connues auraient deviné ce qu'il en était. Et voilà où était la différence. Ruth n'avait rien compris. Il fut de nouveau désolé de sa propre grossièreté et ému de l'innocence exquise de Ruth, et se retrouva de l'autre côté de l'abîme. La passerelle était rompue.
Bertrand Leclerc, cet extrait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui se rend compte à la fois que le monde des bourgeois n'est pas différent du sien. Cette simple femme, écrit Jack London, peut avoir les lèvres tachées comme n'importe qui. Et en même temps, il sera toujours exclu de ce monde, et cela, quoi qu'il fasse.
Oui, en même temps, cette scène a précisément son écho quelques dizaines de pages plus loin, quand à son tour, Ruth va découvrir elle-même le lien charnel qui s'est tissé entre eux à son insu. Ce qui, en l'occurrence, est assez spectaculaire. Alors évidemment, il y a cette dimension-là, adolescente, amoureuse, de découverte des émois amoureux partagés. Ce qui est spectaculaire, c'est à quel point ce personnage est littéralement anesthésié. Alors comme pouvaient l'être, évidemment, de nombreuses jeunes filles à la fin du 19e siècle dans la meilleure société américaine. Mais elle est anesthésiée, et la scène dont je parle, qui fait écho à celle-ci, c'est-à-dire qui va provoquer la prise de conscience de Ruth, est précisément la scène pendant laquelle Martin Eden va pour la première fois lire ses textes, ses nouvelles, les nouvelles qu'il écrit, et ses poèmes, à Ruth. Alors, ça va être une déception catastrophique, parce qu'elle va songer uniquement à le corriger, à le reprendre, alors que lui ne cherche qu'à parler de âme à âme, c'est-à-dire qu'il écrit vraiment pour conquérir son amour, pour lui parler d'amour, mais amoureusement, enfin au plan des âmes, dans un commerce des âmes, et commerce auquel Ruth sera totalement incapable, dans lequel Ruth sera totalement incapable d'entrer. Et néanmoins, c'est en le voyant, cet ancien marin qui parlait si mal quelques mois plus tôt, c'est en le voyant prononcer, lire ses textes, mesurant aussi la puissance fauve qui est la sienne dans son geste d'écrire.
Peut-être surtout ça d'ailleurs.
Surtout ça, cette puissance virile qui infuse ses textes, le texte qu'elle peut d'ailleurs réprouver parce qu'elle les trouve trop réalistes, trop crus, trop vulgaires. Néanmoins, c'est en l'écoutant, en y prêtant une attention assez distraite qui est celle de la correctrice qui va donner des conseils et pas du tout celle de la lectrice qu'attend Martin Eden. Ce sont des pages que je trouve absolument formidables sur l'échange qu'est la littérature, l'impossibilité de cet échange qu'est la littérature. Et c'est précisément à ce moment-là que Ruth va songer pour la première fois que peut-être elle pourrait épouser Martin Eden, c'est-à-dire évidemment dans le langage fleuri de cette époque, évidemment c'est l'éveil à sa sensualité. Il y a un passage d'ailleurs formidable à ce moment dans le livre, c'est une carapace qui tombe, et c'est une carapace qui tombe au moment où Martin Eden lit, est en train de lire, mais malheureusement à mauvais escient.
Mais c'est ça, parce qu'il aurait pu faire autre chose, ça n'aurait rien changé, elle aurait toujours vu dans ce physique au fond, et dans peut-être ce que représente justement Martin Eden, qui n'est pas de son monde, elle aurait peut-être aimé Martin sans, et justement sans qu'il lise.
Grande question, mais dans le livre auquel le livre ne nous apporte pas de réponse. Mmh. Et moi, je suis pas du tout convaincu de ça. C'est que je pense réellement que ça passe par le texte. Justement, ça passe par ce qui la constitue, elle, qui est une culture bourgeoise, lettrée. Elle est licenciée de lettres. Elle prétend, elle croit sincèrement connaître beaucoup mieux que cet ancien marin ce que peut être la littérature, ce qu'elle devrait être, ce qu'elle doit être. Or, en fait, elle est dans une carapace qui se lézarde, et ce sont toutes ses convictions, c'est toute sa culture bourgeoise qui, à son insu, elle en a absolument pas conscience, se lézarde. Et c'est bien parce que cette culture se lézarde que sa féminité, qu'on peut même dire animale en l'occurrence, va réussir enfin à s'exprimer, enfin va réussir à exister tout simplement.
En fait, on pourrait dire qu'elle est du côté de la culture, alors que Martin Eden cherche à être du côté de l'art. Et il y a une impossibilité pour ces deux choses à se rejoindre.
Tout à fait. C'est vraiment là, c'est un très grand livre aussi sur ce plan-là. C'est vraiment un livre sur l'opposition radicale et archaïque, éternelle, entre la culture et l'art. C'est la culture qui est aussi, le roman le montre du début à la fin, un instrument de domination, et qui est, au bout du compte, au point de départ, quand il tombe amoureux de Ruth, c'est ce qu'il veut acquérir, si ce n'est que... partant, en empruntant ce chemin qui va le mener vers les bibliothèques, vers une vraie forme de culture, en chemin, il découvre ce qu'il appelle la joie créatrice. Il y a aussi des pages tout à fait extraordinaires sur ce que peut être la joie créatrice, qui sont d'ailleurs les seuls moments de plénitude dans l'ensemble du livre, les seuls moments de plénitude, la question de l'amour étant omniprésente, où l'amour se réalise. Alors évidemment, il se réalise dans le geste de création qui n'est pas celui qu'il attendait. Mais il va... empruntant le chemin que toute cette bourgeoisie fréquente avec aisance et sans en prendre la mesure à l'université, lui, le découvrant réellement par ses propres moyens, va très largement sortir de la route parce qu'il va découvrir cette joie créatrice qui va l'emmener du côté de l'art. Et immédiatement, on est dans un affrontement avec le monde cultivé qui ne peut pas recevoir cette vitalité de la part d'un ancien marin.
Il la découvre, mais il va la perdre aussi. Donc il y a une désillusion, puisque la joie créatrice, à un moment donné, elle ne sera plus suffisante pour lui donner l'envie de vivre, tout simplement.
Au moment du succès, et après la rupture, en fait, qui aurait dû être définitive avec Ruth, même si, au bout du compte, il va y avoir un ultime épisode encore plus désastreux de leur relation. Mais donc, parce qu'il a refusé de prendre l'emploi que la famille, toute la famille de Ruth veut qu'il prenne, puisqu'il s'est obstiné à écrire, jusqu'au moment, dans l'insuccès, jusqu'au moment où le succès le rattrape. Et c'est le moment précisément où, entre la rupture amoureuse, le suicide de son ami, qu'il considère comme étant qui est un poète de fiction, qu'il considère comme étant le plus grand poète, dont seulement un poème a été publié, et qui est en fait, et la véritable figure héroïque littéraire du livre, ce qui est aussi le contrepoids de Martin Eden, il peut se permettre aussi de se montrer à ce point extraordinaire écrivain, enfin de montrer son Martin Eden à ce point extraordinaire écrivain, parce qu'il y a encore un autre exemple de quelqu'un qui est allé plus loin et qui n'a pas du tout obtenu aucune forme de reconnaissance, qui ne l'a même pas cherché, à dire vrai. Bon, c'est à ce moment-là que la joie créatrice va le quitter, mais sans doute parce que lui-même est tombé dans un leurre, c'est-à-dire que justement, il a accompli tout ce chemin en visant à la conquête de Ruth. Or, c'était un leurre, et c'est là où la divergence entre le personnage et son auteur devient gouffre, se fait gouffre, en fait. C'est là où Martin Eden n'est pas du tout un autoportrait de Jack London, mais une dénonciation de ce qui a amené Martin Eden à la dépression, puisque les dernières pages du livre sont simplement la description de ce qu'il appelle le royaume des ombres, c'est-à-dire de l'entrée dans une dépression où plus aucune joie, ni créatrice, ni de quelque ordre que ce soit, ne peut l'atteindre.
Alors justement, Bertrand Leclerc, vous commencez à aborder ce sujet passionnant avec Martin Eden, qui est la question de l'autobiographie. Vous avez même appelé, parce qu'il n'y a pas que l'autobiographie, il y a aussi le rapport au lecteur. Et vous avez sous-titré, en quelque sorte, votre article dans ce livre, dans les rouleaux du temps, vous l'avez sous-titré « De l'auteur ou du lecteur, lequel invente l'autre ?» Donc on a l'auteur, le personnage et le lecteur. Est-ce que vous pouvez nous aider à débrouiller un petit peu tout ça ? Qui invente qui, au fond ?
Alors, ce qui est assez extraordinaire dans cette histoire, c'est que, évidemment, et on peut reprendre tous les éléments, Jack London a prêté à Martin Eden, lui-même issu de milieux défavorisés, pour aller un petit peu vite, a prêté énormément d'éléments autobiographiques. Mais d'emblée, dès la publication du livre, dès les premières réactions, le livre va connaître un succès extraordinaire.
Parce qu'il est vendu comme étant autobiographique.
Alors, dès le départ, les critiques l'abordent comme ça. Et au départ, il n'est pas forcément vendu comme ça, mais les critiques l'abordent dès le départ comme ça. Et immédiatement, Jack London dénonce cette façon de ramener son roman à l'autobiographie. Et il explique à ses amis, il écrit à ses amis en disant qu'il a raté son coup. Il a raté son coup parce que pour lui, ce roman, c'est une dénonciation de la volonté nietzschéenne de son auteur.
De son extrême individualisme, de
l'extrême
son égoïsme,
individualiste
peut-être.
De Martin Eden, qui justement est en quête d'un succès individuel et puis qui élabore toute une théorie de la force, de la puissance, etc., qui est en fait ce que Jack London voulait dénoncer. Si l'histoire se termine si mal par cette dépression qui amènera Martin Eden au suicide, c'est, dit Jack London, parce que, non pas contrairement à ce que lui reprochent les religieux, parce qu'il n'a pas foi en Dieu, Martin Eden, mais parce qu'il n'a pas foi en l'homme. Or, ce qui tient à cette époque-là l'écrivain, l'auteur, qui est Jack London, en tout cas ce qu'il prétend le tenir, c'est justement cette foi en l'homme qui se concrétise pour lui dans un engagement politique à rebours de l'individualisme du côté du socialisme.
Oui, mais alors tout est dans le prétend, parce que quand même, quand on met en parallèle la biographie de Jack London et Martin Eden, il y a quand même correspondance presque parfaite, sauf la fin, quoique.
Si, si.
Quoique. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas un discours de Jack London, de dire que ce n'était pas lui dans le roman, ou de manière encore plus étonnante, est-ce que finalement il ne s'est pas décrit lui-même sans s'en rendre compte? Est-ce que il ne s'analysait pas mieux en tant que romancier que dans la vie, tout simplement? Est-ce qu'il n'était pas plus lucide dans son roman que dans la vie quand il se regardait lui-même?
Alors, moi, je ne pense pas. Après, personne évidemment n'aura la réponse. Ce qui est sûr, et c'est là où le phénomène est totalement fascinant, parce que je crois que c'est à ce degré de confusion entre la fiction et la réalité, confusion entre le personnage et l'auteur, je crois qu'il y a très peu de romans qui ont prêté à un tel degré de confusion. Et donc, c'est en soi totalement fascinant. C'est vrai et c'est faux. La légende, l'identification de Martin Eden et Jack London n'a fait que s'accentuer après la mort de Jack London, au prétexte que cette mort serait due à un suicide. Or, cette question, en fait, elle est loin d'être élucidée. C'est possiblement un suicide, mais on n'en sait absolument rien. On a trouvé sur la table de chevet de Jack London des calculs de doses de médicaments de somnifères qui étaient mortels.
Mais sa femme a dit que ça n'était pas un suicide.
Voilà. Est-ce qu'il a fait une erreur de calcul? Est-ce que c'était volontaire? On n'en saura jamais rien. Et à partir de cette identification finale, c'est comme si toute la machine culturelle, en l'occurrence, parce que ce qui est étonnant aussi, c'est que c'est précisément ce qu'il dénonce dans tout son roman, la façon dont la culture va rabattre tout ce qui jaillit vivant dans la création. À partir de ce moment-là, comme c'était le cas dans l'édition 10-18 où je l'ai découvert, et ça l'était encore il y a quelques années, la quatrième de couverture, dit explicitement que Martin Eden préfigure le destin de Jack London.
Et la photo, sur la couverture, c'est Jack London, Martin Eden.
Et qui effectivement, en plus, qui plus est, ressemble à la description physique du visage de Martin Eden qui est donnée par Jack London. Et en même temps, je pense que la différence énorme, c'est que une fois qu'il a publié son roman, il est toujours en train d'écrire. Et d'ailleurs, les derniers mois de sa vie, il était sur un dernier manuscrit qu'il a laissé inachevé. C'est-à-dire que cette joie d'écrire, de créer, ne l'avait lui pas du tout, en tout cas, quitté.
Et c'est ça qui les différencie. Un autre extrait de Martin Eden.
Martin Eden, le voyou, Martin Eden, le marin, avaient existé, eux. Mais Martin Eden, le célèbre écrivain, n'était qu'une illusion créée par l'imagination de la foule. Il lut des articles sur lui et s'ébahit devant des portraits qui n'avaient absolument rien de vrai. Impossible de découvrir la moindre ressemblance. Il était celui qui a vécu, vibré, aimé. Celui qui, à son poste au gaillard d'avant d'un navire, avait vogué vers d'étranges et lointaines contrées. Ou encore celui qui, à la tête d'une bande de chenapans, s'était battu à coups de poing. Il était celui que tant de livres à la bibliothèque populaire avaient fait reculer, épouvanter le premier jour. Et celui qui s'était frayé un chemin au milieu d'eux et les avait conquis. Il était celui enfin qui se donnait des coups d'éperon pour chasser le sommeil et travailler jusqu'au-delà de la limite des forces humaines. Tout cela, il l'était. Mais ce qu'il n'était pas, c'était cette espèce d'ogre que le public s'obstinait à vouloir gaver. Tout cela l'attristait profondément. À côté de la faillite de son idéal, dont l'amour avait été le but, le krach de ses illusions sur le monde littéraire était bien peu de chose en vérité. Il avait perdu plusieurs années de sa jeunesse en travail stupide et forcené pour découvrir que les magazines, les revues, les journaux n'étaient que basse réclame, snobisme et vil trafic. Eh bien, c'était fini, se disait-il pour se consoler. Parti à tire-d'aile vers une étoile, il avait naufragé dans un marais pestilentiel. Fréquemment, des visions de Tahiti, de la claire et douce Tahiti lui revenaient, comme aussi de Pomotu et des Marquises. Il se voyait souvent à bord d'un schooner de commerce ou d'un frêle petit cotre glissant à l'aube entre les atolls parsemés d'huîtres perlières jusqu'à Nuka Hiva et la baie de Taiohae. Là, il le savait, des filles aux cheveux fleuris le prendraient par les mains et parmi les chansons et les rires le couronneraient de fleurs. Les mers du sud l'appelaient et il savait qu'un jour ou l'autre, il répondrait à leur appel.
Martin Eden, qui a été écrit quelques années avant la mort de Jack London, à un moment où il était déjà très célèbre, il avait goûté à l'amertume des prières exaucées, pour reprendre Sainte Thérèse d'Avila, qui disait qu'il n'y a jamais autant de larmes versées que sur les prières qui sont effectivement exaucées. C'est tout de même troublant, encore une fois, cette concordance entre le personnage et l'auteur. Troublant aussi le fait qu'il parle de Tahiti, alors que Martin Eden a été écrit sur son bateau, le Snark. Là encore, Bertrand Leclerc, est-ce que vous avez un commentaire à faire au fond sur cette lecture et sur ces coïncidences ?
Oui, enfin, bien sûr que c'est étonnant, c'est fascinant, etc. Parce que encore une fois, tout le matériau autobiographique est rassemblé dans le livre. Maintenant, il n'en reste pas moins que le portrait de Martin Eden, et c'est au dernier tiers que l'écart se creuse, est celui d'un homme devenu écrivain célèbre qui n'avait foi qu'en lui-même, qui n'avait foi qu'en sa propre force créatrice et qui s'était hissé même de manière parfois extrêmement brutale au-delà de sa condition première, abandonnant, délaissant les camarades d'autrefois qui lui semblaient devenus vulgaires alors qu'il est en train de conquérir le milieu bourgeois. Après, évidemment que peut-être il a été à son insu le Cassandre de lui-même, mais je crois que on est quand même là dans l'ordre d'une interprétation qu'on plaque et qui est, une fois qu'elle est plaquée, elle est extrêmement difficile à lever, alors même que c'est la levée qui est le plus intéressant parce que c'est tout à fait fascinant de voir comment la lecture modèle autant que l'auteur l'interprétation d'une œuvre comme celle-là.
Mais alors justement, qu'est-ce que ça dit du lecteur ou du public de vouloir absolument, vous parlez d'obstination, de vouloir absolument faire par exemple de la mort de Martin Eden une prophétie de la mort de Jack London?
Ça signifie une identification, un romantisme. C'est une fin qui est extraordinairement romantique. C'est follement romantique, la fin de Martin Eden. On peut l'interpréter en tout cas comme ça, et qui plus est si on prophétise la mort de l'auteur dans la foulée. Après, c'est aussi sans doute une adéquation. Enfin, ce qui est très curieux, c'est que il joue beaucoup avec tout ça, Jack London, et en particulier à un moment dans le livre, Martin Eden en vient à formuler les différentes formules du succès pour les nouvelles qu'il écrit et qu'il voudrait placer dans tous les journaux. Et à chaque fois, il formule la chose comme ça. Il faut qu'il y ait deux personnes qui se rencontrent, une histoire d'amour qui naît. Il faut qu'il y ait un empêchement à cette histoire d'amour. Il faut, en troisième point, que cet empêchement soit levé. Et la seule chose qui est intangible, parce que toutes les autres choses peuvent connaître mille variantes, la seule chose intangible, c'est la fin. Il faut que le couple se marie et que ça se termine bien. C'est exactement le modèle de Martin Eden. si ce n'est la fin qui est à l'inverse. Et je crois, moi, que... et lui-même, Jack London, à propos de son livre, parle de paraboles. Et je crois qu'on ne publie pas impunément des paraboles. C'est-à-dire que je me souviens de mon ami Frédéric Berthet, qui était écrivain et qui disait « Seuls les saints écrivent des paraboles, les écrivains se contentent d'écrire des nouvelles ». Et là, il a effectivement touché à quelque chose qui a provoqué cette lecture, cette réaction, cette en même temps qui est totalement d'adhésion du lecteur. Le lecteur est fasciné par cette volonté nietzschéenne. Je mets quand même des guillemets parce que c'est un Nietzsche assez caricatural que celui que véhicule Martin Eden. C'est vraiment né dans les premières années où Nietzsche, qui est lu depuis seulement 5-6 ans, depuis qu'il s'est absenté, est encore assez mal compris.
Ça dit beaucoup d'ailleurs sur la grande culture de Jack London.
Oui, tout à fait. Et là, il est quand même réduit à quelques principes de force et de supériorité qui n'ont qu'un rapport assez éloigné avec la vérité nietzschéenne.
Pour terminer, Bertrand Leclerc, entre la première lecture de ce Martin Eden, quand vous aviez 15 ans, j'y reviens, et la lecture que vous avez faite pour cette émission, qu'est-ce qui a fondamentalement changé ?
Alors, c'est le rapport à la vérité. Moi, je crois que c'est une des forces majeures de l'auteur qui est London. Il faut se souvenir quand même qu'on est à la fin du 19e siècle. L'Amérique est encore très anglo-saxonne dans son rapport à la littérature. Elle a encore une fragilité dans son expression artistique et culturelle. Et là, tout d'un coup, émerge une force purement américaine qui bouleverse totalement la scène et qui est dans un rapport à la vérité de la description. Il y a cette question du parler boutique. London, dans Martin Eden, parle boutique et il le parle avec une lucidité sur le rapport entre les auteurs et les éditeurs et le public et une vérité qui sont d'une actualité totalement sidérante.
La compagnie des auteurs. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Merci beaucoup Bertrand Leclerc. Vous restez avec nous. Dans quelques minutes va nous rejoindre Thierry Beauchamp pour parler de l'invasion sans pareille, étonnante nouvelle de London qu'il vient de traduire et qui paraît aux éditions du Sonneur. Mais tout de suite, c'est le moment de retrouver en duplex de Bordeaux Olivier Mauny pour En compagnie des revues. Bonjour Olivier.
Bonjour Mathieu.
Et aujourd'hui avec vous, eh bien, c'est vêtu de notre plus beau costume que nous nous apprêtons à sortir dans le monde, si j'ai bien compris.
En quelque sorte Mathieu, même si au risque de vous décevoir, vous le savez, le privilège d'un lecteur est d'abord de pouvoir vivre d'autres vies que la sienne. Et pas plus qu'il n'est nécessaire d'avoir vécu une expérience de chercheur d'or dans l'Alaska pour rendre à l'œuvre de Jack London sa juste place, on l'a vu, l'une des premières en l'occurrence. Il n'est indispensable d'avoir fait ses humanités sur le dance floor du Palace ou du Club 54 pour constater que des fois, la chronique mondaine peut être considérée comme l'un des beaux-arts, relevant pleinement au moins du champ de la littérature. Voilà pourquoi aujourd'hui, Mathieu, sans quitter les rayonnages de notre bibliothèque, nous allons traverser la nuit, parler ensemble de ses plus beaux oiseaux.
Mais avec plaisir, alors par lequel de ces oiseaux souhaitez-vous commencer ?
Peut-être par l'un de ceux dont le ramage est le plus chatoyant et qui de surcroît vient de publier un fascinant recueil de mémoires. Mais Mathieu, avez-vous vu le film de Paolo Sorrentino, La Grande Bellezza ?
Oui, je l'ai vu, oui, sa sortie.
Bon, eh bien, si dans ce si beau film, le personnage de Tony Servillo était Rome en quelque sorte, à lui seul, son pendant parisien dans la vraie vie existe, il s'appelle Jean-Pierre de Lukovic, et il a été des années 60 aux années 80 au moins, c'est-à-dire lorsque la nuit avait encore un sens, journaliste à Paris Match ou Vogue Homme, entre autres, l'incarnation même de Paris, que ce soit chez Castel, mais aussi à New York avec Warhol, à Londres durant le Swinging London, ou dans les nuits rouges du Moscou de la Perestroïka. C'est tout cela qu'il raconte, l'air de ne pas y toucher, en passager clandestin de la gloire, fut-elle éphémère, dans People Bazaar, que publie aujourd'hui les toujours très précieuses éditions Séguier. Bien entendu, dans ce livre d'un journaliste embedded, comme on dit en bon français, sur le front de la jet set d'hier et de ce qui restait de la Café Society, la frivolité est une assaise. On y croise un demi-siècle de vedettes du cinéma ou de la chanson, de mélancolie des paquebots, des avions, de demi-mondaines, de pauvres petites filles riches, quelques génies quand même, la république des copains et des coquins. en vrac, Maurice René, Sagan et sa bande, Pierre Bénichoux, Roger Théron, etc. Et ce lecteur compulsif de Modiano et du journal de Jules Renard sait trouver les mots pour le dire. Et autant de scénettes comme des éclats de souvenirs dans le miroir brisé de la mémoire.
Enfin, je vous rassure, Olivier, je pense que la nuit a toujours un sens encore aujourd'hui. Est-ce que, outre ce People Bazar, il y a d'autres livres qui permettent qui vous permettent de dire que la chronique mondaine, ça devient de la littérature aujourd'hui, Olivier?
Oui, je crois pas que ça le devienne, ça l'était déjà, je crois, du temps de Proust ou de Saint-Simon. Mais je vais quand même insister sur deux ouvrages récemment parus qui me paraissent bien, en effet, Mathieu, relever de cela la littérature. D'abord, il y a « elle court la nuit », aux éditions Écriture, le recueil des chroniques que donna durant des années, au tournant des années 70-80 pour être précis, le regretté Jean-Michel Gravier au Matin de Paris. Moins trash que son homologue de Libération, alors, Alain Pacadis, Gravier était aussi sans doute plus mélancolique encore, composant un étrange monde où Sophia Loren comme Serge Lama, Marie-France Pizier comme BHL sont les objets transitionnels, ils me pardonneront, d'une mémoire chahutée, les refuges d'un vieil enfant cultivé et léger qui savait, hélas, aller vers sa mort. Ensuite, et plus que tout, pour être honnête, il faudrait presque apprendre par cœur l'admirable « Vie rêvée », c'est au singulier, de Tadej Klossowski Drola, le fils de Balthus, le mari de Loulou de la Falaise, pages arrachées de son journal de 1972 à 1977, que son éditeur, Charles Danzig, a convaincu de laisser publier dans sa très jolie collection bleue chez Grasset. Dans la bande bruyante, odieuse et adorable formée autour d'Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, où il disperse joliment ses dons, Klossowski Drola est notre jeune homme, comme Barrès l'écrivait de Proust. Il rêve sa vie et finit par faire en sorte que celle-ci ressemble à son vague songe. Le voisinage est coquet, voici Warhol et voici Helmut Berger, les Noailles ou Marlon Brando, et un diable qui aime trop plaire aux vieilles dames, en lequel il n'est pas interdit de reconnaître, même s'il n'est pas cité, François-Marie Bagné. Là, tout n'est que désordre et beauté. Là, tout, absolument tout. N'est que littérature, Mathieu.
Merci Olivier, très bon cocktail et donc à très bientôt.
À bientôt.
La guerre à l'ancienne devint un sujet de plaisanterie. Il n'en demeurait plus que les opérations de surveillance. La Chine s'était moquée de la guerre et la guerre, elle, subissait. Mais il s'agissait d'une guerre ultramoderne. La guerre du XXe siècle, la guerre scientifique, la guerre de Jacobus Lanningale. Les canons de 100 tonnes étaient des jouets comparés aux projectiles micro-organiques lancés par les laboratoires, ces messagers de la mort, ces anges de la mort qui traquaient 1 milliard d'âmes à travers tout l'Empire. Bonjour Thierry Beauchamp.
Bonjour.
Alors vous travaillez à France Culture, hein, disons-le à nos auditeurs, depuis très longtemps, la fin des années 80. Vous avez...
Début des années 90, allez.
La toute fin des années 80, le début des années 90. Vous avez travaillé pour divers producteurs, vous continuez encore de le faire, mais vous êtes aussi, peut-être surtout, traducteur de l'anglais, traducteur de l'américain.
C'est vrai.
Et vous venez de traduire, pour les éditions du Sonneur, une nouvelle de Jack London, L'invasion sans pareil. C'est un récit d'anticipation, un genre qu'il a au fond pas mal exploré.
Oui, c'est un peu sous toutes ses formes, enfin, peut-être pas sur la science-fiction telle qu'on l'entend habituellement, il parle pas beaucoup de petits hommes verts, mais il a écrit pas mal de nouvelles et de récits uchroniques ou dystopiques, il écrit un roman sur la préhistoire quand même, avant Adam, il a écrit Le Vagabond des étoiles sur les vies antérieures, qui rappelle d'ailleurs la nouvelle de Kipling, La plus belle histoire du monde. Kipling ayant été un de ses modèles littéraires, on peut penser que c'était un hommage détourné.
Est-ce qu'il y a des thèmes qu'il choisit de traiter par l'anticipation, la science-fiction, et des thèmes qu'il choisit de traiter avec des romans plus réalistes ?
Je pense que dans les nouvelles en particulier, il a développé un genre, qu'on pourrait appeler la nouvelle catastrophe, comme on parle le film catastrophe. Et il imagine ce qui peut arriver si le monde continue comme il va. Son analyse, elle est double. Il y a le socialiste qui parle en lui, l'analyste marxiste en quelque sorte, les rapports de force entre puissances économiques, rapports de classe. Mais il y a aussi le spencerien en lui et qui voit les choses, je dirais, un peu au microscope, comme si les groupes humains étaient des petits microbes qui cherchaient à se dévorer les uns les autres.
Spencer, c'est celui qu'on
énorme influence
qu'on a dit l'inventeur, même si le
précurseur du darwinisme,
voilà, du darwinisme philosophique,
social. Si l'on peut dire, il a une énorme influence sur dans le monde anglo-saxon, sur toute une génération. Il en a encore une aujourd'hui, je pense, dans certains milieux. C'est le darwinisme social, c'est de considérer que ce qui se passe à l'état de la nature, de la physique, existe aussi à l'état social, et que au fond on retrouve une hiérarchie, que les races humaines les plus développées sont aussi les plus complexes, et que leur complexité ne va qu'en se complexifiant, et donc que leur domination ne va qu'en s'accroissant. Il était persuadé, comme beaucoup d'autres avec lui à cette époque-là, que la race anglo-saxonne était la race supérieure entre toutes. Ils admettaient que bien sûr, que les Allemands participent de cette race anglo-saxonne, en considérant qu'ils dominaient à peu près un tiers de la planète en ce temps-là.
Et donc ce darwinisme social, c'est l'idée qu'il faut laisser se développer la société sans intervenir, parce que les plus faibles, finalement, ont vocation à tomber pour que seuls restent les plus forts, et que le groupe soit, du coup, plus fort pour lutter contre les autres groupes.
De toute façon, d'une certaine manière, il n'y a rien à faire, puisque la nature va suivre son cours, et ce qui doit arriver, arrivera.
Donc Jack London souscrit à cette idée ?
C'est un être, on l'a vu quand on parle de Martin Eden, c'est un homme coupé en deux, Jack London. Il y a ces deux forces contradictoires qu'il essaie d'associer tout au long de sa vie, avec assez peu de succès à mon avis, ce qui explique aussi pourquoi il est si inspiré. Ça lui a donné beaucoup d'énergie pour écrire des histoires sous des points de vue très variés, mais il n'arrive pas à réduire en quelque sorte ses convictions socialistes dans ses convictions plus larges, cette religion qu'était le spencerisme.
Alors on va peut-être en reparler un peu plus tard, mais il faut peut-être raconter un petit peu cette nouvelle d'anticipation. C'est l'histoire de la montée de la Chine comme première puissance mondiale durant tout le XXe siècle, à la faveur d'abord de son annexion par le Japon, qui lui permet de se développer. Et puis ensuite, elle met les Japonais dehors et elle se développe par elle-même jusqu'en 1976, où là, la Chine est devenue trop puissante et on décide de briser cette puissance. Quand je dis « on », c'est d'abord la France et les pays occidentaux, plus ou moins.
La Chine était guidée sur la voie du progrès par son occupant japonais. Elle a fini par absorber l'armée coloniale japonaise. La population chinoise déborde sur ses frontières. Une guerre intervient entre la France et la Chine.
Sur des questions coloniales, alors parce qu'ils n'avaient pas anticipé que la France perdrait ses colonies.
C'est ça, mais d'une certaine manière, c'est pas trop mal vu. Puisqu'il y a eu effectivement un certain nombre de problèmes aux frontières de la Chine tout au long du XXe siècle. Débordement sur les frontières russes. À chaque fois, vous avez les armées des puissances occidentales qui sont absorbées, conquises par l'extraordinaire démographie chinoise qui fonctionne comme une éponge, qui absorbe tout ce qu'elle touche d'une certaine manière. Et c'est à ce moment-là qu'intervient le facteur blanc, si on peut dire, puisque évidemment, dans l'esprit des théoriciens racialistes de l'époque, la science était d'abord l'affaire des Européens et des Occidentaux. Et donc, il y a un petit génie tout à fait anonyme, ce qu'on retrouve dans d'autres nouvelles d'anticipation de London, cette idée de l'homme de rien du tout, mais qui est génial. Il ressemble à rien, comme dans la nouvelle Goliath, par exemple, et qui trouve l'idée pour se débarrasser à tout jamais de cette puissance encombrante, envahissante. Et c'est donc l'arme bactériologique qui contient tous les germes de toutes les maladies. Et c'est ainsi que le peuple chinois va disparaître. entièrement les survivants. Alors, il y aura quelques survivants qui seront évidemment assassinés par les armées occidentales ensuite.
Bon, on va parler de ce que ça peut bien vouloir dire. Mmh. Sur l'idée de l'arme bactériologique, est-ce que c'est très nouveau? La Première Guerre mondiale va arriver, on va utiliser des gaz aussi dans les tranchées, mais enfin quand même, c'est vrai que ça a été tellement le sujet de ces dernières années, la guerre bactériologique, que là encore, on a le sentiment d'une forme de préscience.
Du point de vue technologique, c'est brillant. Il anticipe effectivement quelque chose qui va arriver très vite, puisque avec l'hypérite et les gaz de combat, l'idée d'utiliser des microbes pour empoisonner l'ennemi, par contre, c'est vieux comme Hérode, si j'ose dire. En Chine, on connaissait ça, mais empoisonner des cours d'eau avec des cadavres d'animaux, ou contaminer une population avec des couvertures empoisonnées, enfin, contaminées. Je pense qu'il reprend une vieille idée, mais qu'il perfectionne, qu'il modernise.
Comment peut-on analyser, Thierry Beauchamp, d'abord le fait qu'il ait choisi ce sujet? Ça vous a interpellé, vous avez écrit une préface, qui justifie quand même un petit peu, qui vient un petit peu au secours de Jack London.
Je contextualise. D'abord, je précise que, encore une fois, que ça n'est pas le seul texte qu'il a écrit dans cet esprit-là. L'idée que l'évolution des sociétés capitalistes les amène à des destructions de masse, cette idée-là, il ne la revendique pas pour lui. C'est le résultat de son analyse de l'évolution historique de l'époque. Ensuite, il est tout de même, il a vu ce qui s'était passé pendant la guerre russo-japonaise, hein, qui est l'inspiration de cette nouvelle. La guerre intervient en 1904. Il reste 6 mois sur place.
Il est journaliste là-bas.
Il reste 6 mois sur place et il observe le comportement des troupes japonaises, le comportement très soumis des populations qu'il observe, les coréennes et chinoises. Il est fasciné par le comportement des Chinois, il trouve extrêmement industrieux, travailleur, évitant. Et il se dit, si jamais ces Japonais, qui ont en très peu de temps atteint le niveau de développement technologique des Européens, donne des leçons aux Chinois, la Chine qui a tout sur place, des ressources minières, des ressources humaines exceptionnelles, deviendra une des grandes puissances du monde.
Il y a d'ailleurs des photos intéressantes de ce reportage de 1904, et en les regardant...
Elles sont très éloignées. Moi, ce qui me fascine dans les photos de London à l'époque, c'est qu'elles sont très humaines. Énormément de portraits, très beaux, ou de photos où on le voit lui avec des Coréens ou des Japonais. Et les textes qu'il écrit, par contre, les dépêches qui sont pas... Bon, c'est du London, il est très rapide, c'est très dynamique, très essentialiste tout le temps, mais en même temps assez objectif. Il comprend très très bien, alors qu'il n'en voit pas grand-chose, il comprend très très bien la situation sur place et comprend très vite que l'armée impériale russe court à sa perte.
Et c'est là qu'il parle pour la première fois, ou peut-être en avait-il d'ailleurs parlé avant, mais dans ces textes-là, il évoque la question du péril jaune, qui est peut-être une question
qui remonte
qui est à la mode, entre guillemets,
qui remonte à cette époque-là. Qui remonte 10 ans plus tôt. Le premier à avoir utilisé l'expression, c'est l'empereur, le Kaiser, Guillaume, en parlant des Japonais. C'est l'émergence du Japon qui fait peur. Pour les Américains, très vite, c'est la Chine, parce que à la fin du 19e siècle, à partir des années 1870-75, vous avez une immigration chinoise qui arrive aux États-Unis. Accord passé entre le gouvernement américain et le gouvernement chinois. Les Américains ont des ambitions en Chine coloniale et on laisse venir donc des travailleurs chinois. Et cette population va venir en quelque sorte concurrencer les ouvriers américains, notamment sur la côte ouest, les paysans, les ouvriers agricoles. Et il y a eu un profond sentiment anti-chinois, au point que le gouvernement américain a passé une loi en 1882 d'exclusion des immigrants chinois. Et on leur interdisait tout simplement de se marier avec des occidentaux. C'était des lois de ségrégation raciale, exactement comme pour pour les Afro-Américains.
Voilà. Et sur cette question, est-ce qu'il s'est prononcé? Est-ce qu'il a dit quelque chose?
il a eu des points de vue très contrastés. Il est spencerien. Il croit, à mon avis, à la supériorité des anglo-saxons. Mais régulièrement, il a donné son soutien aux afro-américains quand il y a eu des questions de lynchage. Vis-à-vis des orientaux, on l'a vu prendre la défense de journalistes japonais au Japon. Donc il s'est engagé. Et puis, vis-à-vis des habitants des mers du Sud, très souvent, Jack London a raconté des récits en épousant leur point de vue, contre le point de vue du colon et du colon prédateur. Les personnages les plus négatifs dans les œuvres de Jack London, largement en tête, ce sont les colons anglo-saxons.
Alors il faut peut-être parler un petit peu, quand on évoque la question du racisme chez Jack London, qui est une question importante et difficile, il faut peut-être parler un petit peu de son enfance et redire, Thierry Beauchamp, que si lui était peut-être davantage racialiste que raciste, c'est un peu ça que vous dites dans...
Non, je dirais quand même qu'il est raciste, mais d'un racisme de son temps. Il n'est pas très haineux, c'est pas un haineux, London, c'est quelqu'un qui prêche la fraternité humaine, mais il a l'impression d'avoir une mission. Il est le surhomme socialiste.
C'est quoi ça, le surhomme socialiste?
C'est lui qui le définit, c'est-à-dire il a conscience de sa force et de sa supériorité, son rôle est donc d'aider les moins gâtés que lui à s'émanciper ou à améliorer leur sort.
Ouais, c'est pas un peu antinomique ça, le surhomme socialiste dans les termes?
Il était, sa pensée était antinomique, c'est pour ça que je vous dis qu'il avait du mal à dissoudre ses convictions socialistes dans sa religion spencerienne, parce que c'est authentiquement une religion. D'ailleurs il en parle dans Martin Eden, oui. Hein. C'est une rupture dans le livre.
Bertrand Leclerc.
Oui, il en parle, mais enfin, en même temps, il en parle. On est toujours dans le point de vue de Martin Eden,
oui, donc qui est son double, son mauvais démon. En quelque
oui,
sorte.
Oui. Enfin, c'est très difficile à trancher parce que il le confronte aussi. Il y a un passage où il explique clairement que Martin Eden, malgré ses idées, se trouve confronté à la réalité d'une guerre entre les classes sociales qu'il ne surmontera pas avec sa propre pensée.
Donc je parlais de sa mère, donc sa mère, Flora, elle, est
très
absolument
raciste.
Très, voilà,
haineuse.
Extrêmement raciste, ouais. Haineuse, oui.
C'est vrai. Donc il y a à la fois le racisme de sa mère et le problème avec son père, finalement il découvre la vérité sur son père tard, je crois qu'il doit avoir 21 ans, qui est son père. Il croit au départ que c'est William Cheney. Lui, William Cheney, lorsqu'il essaie d'entrer en contact avec lui, il lui répond que non, il est stérile. Je pense que dans un cas comme dans l'autre, ça a été un traumatisme pour London. Parce qu'il n'est pas très fier de sa mère, et il est encore moins fier de ce père, et il se demande qui est son père. Et je pense qu'il se construisait déjà dans son enfance une ancestralité mythique, et il n'a cessé de le faire par la suite.
Et finalement, la littérature, Thierry Beauchamp, c'est l'endroit où on essaie de résoudre un petit peu tous ces conflits-là.
C'est un artiste et je pense qu'il a trouvé le terrain pour régler ses conflits intérieurs. Imaginez un peu toutes les possibilités, jouer avec. Pour ça que vous avez un roman qui vous semble très raciste, comme les mutinés d'Elsener. Puis vous avez des séries de nouvelles qui sont beaucoup plus fines et beaucoup plus proches finalement d'un relativisme culturel qu'il est dommage qu'il n'ait pas connu de son vivant, alors que Franz Boas n'était pas très loin à la Columbia University.
C'est cela, Bertrand Leclerc, ce que nous fait la littérature, c'est le sous-titre là encore de votre livre Dans les rouleaux du temps. Ça nous permet, ça lui a permis de réconcilier, de travailler, de réfléchir un peu tout ça.
Oui, et Martin Eden en est le prototype. Le problème est qu'effectivement, je parlais tout à l'heure de cette scène où il lit ses premiers textes à Ruth dont il est amoureux, et le problème c'est qu'il attend de voir ce que ça lui fait, et qu'en apparence, ça ne lui fait rien d'autre que désirer, c'est ce qu'elle désire, comparer aux grands auteurs classiques vis-à-vis desquels ces premiers écrits de Martin Eden lui semblent bien défectueux. Et alors même que c'est effectivement ce... Et qu'à son insu, ça lui fait quelque chose, puisque au bout du compte, c'est le moment, comme je le racontais tout à l'heure, où elle va finir par le demander en mariage, enfin, où elle va imaginer le demander en mariage, parce que profondément, ça lui fait quelque chose, à son insu. Et c'est aussi un des sujets, je crois, de Martin Eden, c'est comment la littérature peut nous faire quelque chose que nous ne savons même pas, dont nous avons en avoir besoin, et dont nous ne mesurons pas même l'absence au quotidien des jours, et qu'il essaye, là, d'illustrer avec une parabole.
Merci à vous deux. Thierry Beauchamp, je crois que vous êtes un peu amateur de poésie.
Bien sûr.
Vous êtes amateur de Jacques Bonnaffé. Bah oui, ça tombe bien. C'est justement lui qui termine, comme chaque jour, cette émission.
Bonjour, nous retrouvons Georges Perros dans une vie ordinaire, écrit au rythme des 8 pieds, octosyllabes, forme de vers beaucoup plus ancienne que le fameux alexandrin. Le roman de la Rose est écrit à 8 pieds, je crois. Oui. Alors, après les épisodes de la naissance, Péros écrit « Je suis un homme maintenant et pourrais être militaire, et quand on me dit de parler, je sais pourquoi je dois me taire. Quoique me sentant peu au monde, je dis bonjour, ça va, bonsoir, à mes semblables que je croise et qui me le rendent parfois. Certes, je sais que mon royaume est bien de ce monde, voilà ce qui m'embarrasse plutôt. Je récupère mal le temps que j'ai passé à faire l'âne en laissant ma pauvre maman s'occuper à torcher mon cul, à me donner le sein si tant. Il est vrai qu'elle fit ce geste de laiteuse et pas le tendresse. Mon père, parfois un peu tard, retour des hauteurs d'Épernay et trop chauffé par le champagne, comment faisait-il pour conduire ? Était-on ne peut mieux reçu ? Je l'avais pourtant supplié, ma mère, de laisser tranquille cet homme rouge qui disait, dès que porte ouverte, « Je suis... » Sous je suis, n'est-ce pas, madame ? Va dire encore que je suis sous. » Et c'était alors la bataille des cris, des gestes, des fureurs. Je séparais les combattants du haut de mes 12 ou 13 ans. 3, 4. J'avance en âge, mais vraiment, je recule en toute autre chose. Et si l'enfance a pris du temps à trouver place en moi, je pense, voilà qui est fait, et je suis devenu susceptible au point qu'on peut me faire pleurer rien qu'en me prenant la main. Je traîne en moi ne sais quelle santé plus prompte que la maladie à me faire sentir la mort. Tout m'émeut comme si j'allais disparaître dans le moment. Ce n'est pas toujours amusant. Ce que je cherche, c'est ce trou entre ma naissance et le jour où l'air me donne à la parole. Quand je foie mes mots, c'est là que je soupçonne mon espace, avant tout langage. Voyez, si je suis à plaindre, à blâmer, mon malheur est un nain, 3 pommes suffiraient à le renverser. Ah ! La moitié du monde, aujourd'hui, photographie l'autre. Misère, tu ne fus jamais tant aimé, faisant vivre centaines d'hommes qui te prennent en caméra. Se passe-t-il meurtre, scandale, il faut y être pour saisir l'instantané de la détresse. Vivre et navigation, oui. Ce que je pense en ce moment, paysage blanc passe au noir dans la minute de l'après. Où donc est le travail de l'homme, sinon dans l'organisation de ce qu'il ignore, le cadre préparé pour l'émotion qui risque de tout foutre en l'air quand elle tire déraison du subtil cogito. La nuit supporte mal ce que l'on pense, ainsi qu'un papillon volant d'une idée à l'autre, ainsi font les adultes marionnettes.
Voilà Jacques Bonnafé dans la compagnie des auteurs. Il lit toute cette semaine des textes de Georges Péros, issus de La vie ordinaire. Un grand merci à vous deux, Bertrand Leclerc. Je signale la parution très récente, c'était le 3 octobre dernier au Mercure de France, de votre roman Par la ville hostile. Et Thierry Beauchamp, et bien votre traduction de L'invasion sans pareil, elle est disponible aux éditions du Sonneur. Ça aussi, ça vient de sortir. Cette émission était réalisée aujourd'hui par Laurence Millet. À la console, il y avait Anthony Thomasson et à la préparation, Didier Pinault, Corinne Amar, Anne-Vanessa Prévost et Eva Lesseau. Demain, je recevrai Philippe Jaworski, responsable de l'édition des œuvres de Jack London en Pléiade. Et d'ici là, si vous le souhaitez, vous pouvez réécouter et podcaster cette émission ainsi que toutes les précédentes sur notre site. Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux.